Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur le poste national de la CRTV. En vitrine dans le 20h de ce vendredi 29 novembre 2024, ballet diplomatique ce vendredi au Palais de l'Unité. 8 chefs de mission accrédités au Cameroun ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Des moments riches en symboles qui traduisent à suffisance le crédit accordé au Cameroun à travers son chef d'État. Inauguration du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, demain le grand jour. Le joyau architectural, dont sans contrepartie du gouvernement chinois, la République du Cameroun, sera officiellement réceptionné ce samedi au quartier Nkwekile, ici à Yaoundé. Heure limite d'arrivée des invités, 10h30. Et puis en sport, la petite reine en vedette à Bagofit dans la région de l'Est. La deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya a été lancée ce vendredi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelekombi, en présence du ministre Joseph Lé, promoteur de l'événement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal sur le poste national de la CRTV. Intense activité diplomatique au Palais de l'Unité cet après-midi. Le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, a reçu les lettres de créance de 8 chefs de mission diplomatique désignés accrédités au Cameroun. Les moments riches en symboles rappelant la place qu'occupe le Cameroun ainsi que le crédit reconnu à ses dirigeants, dont en tête le président Paul Biya. Reportage de le Nomba.
Solennité ce vendredi 29 novembre 2024 au Palais de l'Unité. Une solennité républicaine à saveur diplomatique, lisible déjà à travers le décor des circonstances. Jet d'eau, tapis rouge, un détachement de la garde présidentielle. Sous le commandement du lieutenant-colonel Tchakounte Chapon Cédric Willy, commandant du premier groupement d'intervention à la garde présidentielle, sous ses ordres, la compagnie musique, le drapeau et sa garde, une compagnie d'honneur à 3 sections assortie d'une haie d'honneur étoffée en sabre. Parmi les acteurs, le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikélé, arborant une redingote. Il est 14h20 sous un soleil de plomb. Le cérémonial peut commencer à l'aile droite dans la cour du Palais de l'Unité. L'acte 1 consiste à l'accueil des nouveaux plénipotentiaires de 8 pays amis du Cameroun accrédités à Yaoundé. Simon-Pierre Bikélé va ainsi, et tour à tour, accueillir Georgi Toua, ambassadeur de Russie, Amnon Kalmar, l'ambassadeur d'Israël, Alain Leroy, chef de la mission diplomatique du Royaume de Belgique, Vijay Kanduja, haut-commissaire de l'Inde, puis Nathalie Couli, ambassadeur désigné de la Suisse. Après viendront le tour de Philbert Gleglo Kwasi Yao de Côte d'Ivoire, de Ibrahim Hamid Al-Ghamedi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Le bal des arrivées et de l'accueil sera clos par Anthony Minko Milame, haut-commissaire du Gabon. Avec tous ses hôtes, un rituel identique d'accueil. Honneur, exécution de l'hymne national du Cameroun, puis honneur. Avant le point d'orgue de l'activité du jour, le passage devant le maître des séances, le chef de l'État, le président Paul Biya. Nous sommes au 3e étage du Palais de l'Unité. Et tour à tour, les 8 nouveaux ambassadeurs désignés présenteront au président de la République les lettres qui les accréditent auprès de lui au Cameroun. La scène se passe devant les plus proches collaborateurs du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre Samuel Vondoyolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le jeune Belan Bella, ministre des Relations extérieures, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, le général de brigade aérienne Emmanuel Amougou et le commandant de la garde présidentielle, le colonel Raymond Jean-Charles Bekoabondo. Après cette articulation qui se déroule en toute sobriété, c'est l'acte final qui va se vivre à l'aile gauche du Palais de l'Unité. Ici, c'est l'exécution des hymnes des pays dont les diplomates viennent de présenter leurs lettres de créance.
J'ai l'honneur de vous remettre, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Son Excellence Madame Viola Amherst, présidente de la Confédération Suisse, m'accrédite auprès de vous.
Suivront alors les honneurs, puis les au revoir. Fin de l'activité du jour, 16h07. Avec cette activité, 8 pays viennent ainsi de renouveler leur crédit au Cameroun, État incontournable d'Afrique centrale et dont le principal dirigeant, le président Paul Biya, est un homme de confiance et très respecté.
Rencontre d'affaires cet après-midi à Istanbul entre le Cameroun et des investisseurs turcs, c'était dans le cadre du Cameroun Business Hour animé par Paul Tasson, ministre délégué à l'économie du Cameroun, et Ousnou Dilemre, représentant du ministre turc du commerce. Les hauts cadres du ministère de l'économie ont présenté aux investisseurs turcs les motivations pour investir au Cameroun. Olivier Kingemouli, envoyé spécial de la CRTV en Turquie.
Images, tableaux et statistiques pour expliquer la situation actuelle de l'économie camerounaise face aux investisseurs turcs, économie qui fonde la politique d'import-substitution et inverser la balance commerciale déficitaire qui emporte d'importantes devises chaque année. 3 871 milliards, telle est la taille du marché local, subdivisée en 8 filières de croissance. Elles demandent toutes des moyens de produire, transformer et commercialisé. Disponibilité des terres et régime d'incitation à l'investissement privé avec des réformes importantes pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Face aux investisseurs turcs, le ministre délégué à l'économie confesse.
Nous avons vendu la destination Cameroun s'agissant des priorités du développement du président de la République dans les moyennes et les longs termes. Nous avons également pu amener nos interlocuteurs à comprendre ce que nous cherchons, l'import-substitution, la reconstruction des régions en crise et la structuration des filières de croissance.
Le représentant personnel du ministre turc du Commerce sera tout aussi optimiste pour l'accomplissement du partenariat productif entre la Turquie et le Cameroun.
Olivier Kingemouli, Istanbul, CRTV.
Le ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription, des déclarations portent à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai irrelatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance HelpDesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.supportharmonie2.cm, un numéro de messagerie +237 691 881 881 pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. L'activité a été intense ce vendredi au Sénat. Les membres de la Chambre haute du Parlement ont reçu de l'Assemblée nationale 4 projets de loi portant sur la loi de règlement de la République pour l'année 2023, la fiscalité locale, la protection des domaines à caractère personnel, l'enregistrement des faits d'état civil. Les travaux étaient présidés par Tabé Tando, l'un des vice-présidents du Sénat. Sur la fiscalité et la loi de règlement ont été examinés par la commission des finances que préside le sénateur Laurent Kodo. Dans l'après-midi, le premier vice-président du Sénat a reçu en audience le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Yuengui, et Aboubakari Abdoulaye ont longuement échangé sur la coopération fructueuse entre les deux pays. Je vous propose d'écouter un extrait de discours du premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, à propos recueilli par Julienne Paul Ngono.
L'allocation spéciale de 12 milliards Fonds CFA pour les projets de développement dans notre pays, récemment mis à la disposition par son Excellence le président Xi Jinping, vient conforter la place de la Chine dans le cœur de nos compatriotes. Dans le domaine des infrastructures en particulier, je me réjouis de l'achèvement du nouveau palais de l'Assemblée nationale, dont la cérémonie de remise des clés sera co-présidée par vos soins ce samedi 30 novembre 2024. Ce prestigieux édifice, fruit de votre expertise et de votre soutien indéfectible, incarne la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations.
Inauguration du nouvel immeuble de siège de l'Assemblée nationale, ce sera demain. C'est un don sans contrepartie du gouvernement chinois à la République du Cameroun. À quelques heures de ce grand rendez-vous, l'eau de corps se plante progressivement et le comité d'organisation s'active à l'effet de réserver un accueil chaleureux aux milliers d'invités attendus. Pauline Deauville-Mendoz-Embassy y a fait un tour, son reportage.
Au complexe du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale ce vendredi et à quelques heures de son inauguration officielle, c'est le temps du pavoisement. Des jeunes gens par petits groupes s'attellent à rendre les lieux propres. À l'aide des monobrosses et d'aspirateurs, ils astiquent le plancher à l'intérieur et à l'extérieur de l'imposant édifice. Plus loin, d'autres groupes s'activent à installer les chaises à l'esplanade du nouvel hémicycle, l'espace qui va abriter la cérémonie d'inauguration. Un véritable travail de fourmi pour un événement que l'on veut réussi. Roger Nkododan, vice-président du comité d'organisation.
Sur le terrain, nous avançons. On vous donne jusqu'à 18h, 19h, tout sera mis en place. C'est pour dire que demain, la cérémonie sera belle, il n'y aura pas de retard. Nous attendons 1500 invités. Nous sommes en train de nous atteler à ce que tout le monde soit assis. Il y a des écrans qui sont déjà mis en place pour que même si vous êtes à distance, vous puissiez visionner la cérémonie.
Toujours pour une cérémonie sans fausse note, le président de l'Auguste Chambre, le très honorable Kava Yegye Djibril a reçu en audience dans son cabinet le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, son Excellence Zhang Jingwei et la délégation qui l'accompagne. Cabral Libi, président de la commission communication.
L'équipe qui a été mise en place a bénéficié de ce qu'on a appelé le coaching de certains députés afin que tout le monde s'assure que les choses se passent plutôt bien. Donc globalement, ça va. La délégation chinoise est arrivée sans incident. Le check-in qui est fait de la feuille de route atteste de ce que les étapes sont observées, tout est fait. Donc il y a lieu de penser que ça devrait s'achever comme ça a commencé, c'est-à-dire bien.
Jusque tard cette nuit, l'on continuera à tout mettre en œuvre pour que cet événement soit à la dimension de la longue, grande et fructueuse coopération entre la Chine et le Cameroun.
Passées de 14 minutes sur le poste national de la CRTV. Mesdames et messieurs, vous écoutez le journal. Une infrastructure ultra-moderne d'accueil, de soins et de remise en forme pour blessés de guerre et soldats en situation d'évacuation sanitaire a vu le jour cet après-midi à Yaoundé. La coupure du ruban symbolique consacrant la mise en service du complexe militaire des Invalides a été effectuée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Béthier Assomo, en présence de plusieurs membres du gouvernement. La structure dotée de 3 immeubles a été bâtie sur très haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées par le génie militaire sous la conduite de son directeur, le colonel Jackson Kamgeng. Un ouvrage cadre d'appui essentiel à l'hôpital militaire de Yaoundé. Écoutons cet extrait d'allocution du ministre sélectionné par Rabiatou Foudaoutou.
C'est cette structure dont les unités fonctionnelles proposées par la direction de la santé militaire et les travaux de construction réalisés de main de maître par les hommes du génie militaire en 28 mois que nous avons l'honneur d'inaugurer. Les objectifs assignés sont pour l'essentiel la mise en place d'un pôle de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, offrant ainsi un meilleur suivi à nos soldats et gendarmes. La mise en place également d'un pôle de suivi physique, psychologique, psychique au profit des soldats et gendarmes. Le complexe militaire des Invalides permettra aussi d'assurer, mieux de garantir la continuité de la prise en charge initiale par l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé, de régler la problématique de la décongestion du dit hôpital, de résoudre l'épineux problème d'hébergement des vasants au long cours à Yaoundé. L'inauguration ce jour du tout nouveau complexe militaire participe ainsi clairement de la mise en œuvre des très hautes permanentes instructions du chef de l'État relatives à l'amélioration des conditions de vie et du cadre de travail des personnels des forces de défense et de sécurité.
Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, qui a procédé un peu plus tôt à l'installation officielle de l'inspecteur général des armées, nommé le mois dernier par décret présidentiel. Esprit d'initiative, de clairvoyance et d'alerte, voilà entre autres valeurs attendues du général de brigade Frédéric Ndjonkep Meyomi. Joseph Bétia Somo a énoncé ces directives au cours d'une cérémonie à la salle de conférence du ministère de la Défense. L'École nationale supérieure de police livre une nouvelle cuvée de commissaires et officiers de police issus du concours direct et de promotion professionnelle. La cérémonie de sortie organisée ce vendredi à Yaoundé était couplée à la remise d'épaulettes aux fonctionnaires de police promus au grade supérieur. Ibrahim Mohamed Abassi.
Jour de gloire pour ce commissaire et officier de police moulé à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Durant leur formation, ces 404 fonctionnaires de police ont reçu des enseignements théoriques et pratiques à travers des modules adaptés au contexte de l'heure. Commissaire de police Daniel Assoumou, major de la promotion.
Une formation riche dans le contenu des modules qui ont tenu compte des nouvelles menaces du monde et de notre pays. Nous sommes suffisamment outillés pour affronter et assumer notre galon.
405 fonctionnaires de police sont aussi promus au grade supérieur. Et au-delà du mérite, il s'agit davantage d'une interpellation à plus d'ardeur au travail.
Un défi pour tenir les responsabilités qui sont désormais les miennes. Les responsabilités, elles pèsent autant que l'épaule pèse.
Ce nouveau grade nous interpelle à un plus haut niveau de responsabilité. Avec les fins d'année qui s'annoncent, nous serons appelés à plus d'abnégation, à plus de dévouement.
À tous ces 809 récipiendaires, le délégué général à la sûreté nationale, Martin Balgangele, a dit qu'il voudrait désormais voir sur le terrain des policiers à la moralité propre, symbole des hommes d'honneur au service de tous et de chacun.
40 fonctionnaires de police récemment promus au grade supérieur dans le Nord-Ouest au titre de l'année 2024 ont promis de redoubler d'ardeur au travail. Ils ont reçu leurs nouveaux attributs ce vendredi à Bamenda en présence du préfet du département de la Meuse-Am. Laurent Chissoubé pour les détails.
La région du Nord-Ouest traverse ces derniers mois un regain du phénomène de kidnapping avec demande de rançon assorti des incendies sur les taxis. Un contexte d'insécurité qui interpelle davantage les forces de maintien de l'ordre, notamment les fonctionnaires de police dont une quarantaine vient d'être inscrit au tableau d'avancement de grade. Simon Emilmo est le préfet de la Meuse-Am.
Travaillant dans un contexte d'insécurité, ils parviennent à maintenir l'ordre qui redouble d'efforts travail pour sécuriser cette région et l'intégrité territoriale de notre pays.
Les épaulettes et galons reçus vont d'officier de premier grade au gardien de la paix deuxième grade. Les promus, conscients du contexte dans lequel ils travaillent, se sentent davantage boostés et prêts à cravacher dur pour honorer la confiance de leur hiérarchie.
Une force, c'est la discipline, le respect de la hiérarchie, le respect des consignes. C'est tout ce qui va nous amener à éradiquer tout ce mal qui règne depuis fort longtemps dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Avec mon nouveau grade, j'espère contribuer davantage à la sécurité et d'aider beaucoup de gens, faire plus que je faisais avant.
Présent à cette cérémonie, la grande famille de la police dans le Nord-Ouest, les autorités administratives et militaires. L'événement s'est achevé par une parade dans la cour de la préfecture de la Meuse-Am. Hop Station Bamenda, Laurent Chissoubé, CRTV.
Suite à la campagne d'identification de proximité en vue d'établissement des cartes nationales d'identité qui s'est déroulée dans certains villages et quartiers de la commune d'Ayos pendant la période de juillet à septembre 2024 qui a été supervisée par une équipe mobile déployée par le délégué général à la sûreté nationale, le maire de la commune d'Ayos, président du bureau de section RDPC, Nyong Efumu Nord, Paul Ndongo Bikor, informe les populations de sa localité qu'une équipe procédera à la mise, à la remise de la première vague des cartes nationales d'identité suivant le programme ci-après. Mardi 3 décembre 2024, villages concernés Nyabeo, Eyes, Nsan-An, Kombo, Koba, Nebodo, Wong. Ce sera l'esplanade de la chefferie de Kombo dès 8 heures. Mercredi 4 décembre 2024, les villages concernés Iyebe, Nsan-2, Melane, Ngoumezeng, Ndélé. Esplanade chefferie de Ndélé dès 8 heures. Influencer les populations, les politiques publiques en faveur de l'accès des jeunes à la santé sexuelle reproductive et à la riposte au VIH-Sida, c'est le sens à donner à la journée de mobilisation et de plaidoyer qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. Sur les messages transmis aux jeunes, je vous propose d'écouter Laboé Paké Yendou, président du comité international d'organisation de la JOMP, au micro de Bernadette Mossomo.
Nous avons essayé de mettre ensemble jeunes et décideurs afin qu'on puisse discuter ensemble des problèmes sur les questions de santé sexuelle et reproductive et permettre à ce que les jeunes puissent déjà utiliser les structures qui existent déjà, mais motiver en même temps nos décideurs à influencer les politiques et à mettre à disposition des moyens pour que d'autres centres adaptés aux jeunes soient construits et que les jeunes puissent avoir accès. L'autre chose, c'est aussi demander à nos gouvernants de se rappeler des engagements qu'ils ont pris par rapport aux promesses qui ont été faites à la participation de la santé sexuelle. Au Cameroun, c'est 10%. Dans d'autres pays, c'est 15% du budget global. Leur rappeler cet engagement-là et leur demander de faire un effort par rapport à leur participation à cet engagement.
Bénéficier d'une prise en charge digne, respectueuse et équitable, tel était l'objet de la conférence débat sur les droits des personnes, des patients vivant avec le VIH-Sida, tenue ce vendredi à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. L'atelier de discussion présidé par le directeur médical de la formation sanitaire, le professeur Félicité Nguefak, clôturait ainsi les activités de la 36e édition de la Journée mondiale du VIH-Sida, célébrée cette année sous le thème « Suivons les droits des patients ». Yolande Molono.
Bénéficier des traitements et services nécessaires sans discrimination ni stigmatisation, préserver l'intimité et la dignité des patients, avoir le droit à un accompagnement psychologique et social, voilà entre autres privilèges énumérés aux patients atteints du VIH-Sida. Au cours de la séance d'échange organisée ce vendredi à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, l'activité s'est inscrite en droite ligne avec le thème de cette année, suivant le chemin des droits. Docteur Annick Simeux, panéliste.
Le patient VIH, malgré l'avancée du traitement, reste stigmatisé dans notre population. Et cette stigmatisation limite le dépistage et l'accès au traitement des patients. Or, si chaque patient VIH était considéré comme un être humain à part entière, il devrait facilement se faire dépister et du coup donc bien prendre ses traitements pour être un citoyen camerounais qui doit être rentable pour la société.
Pour les patients participant à la réflexion, les informations arment davantage contre la maladie.
On doit vivre avec, on doit s'accepter.
Le fait simplement de se sentir aimé ou qu'on se soucie de toi, c'est déjà un grand pas parce que tu sens que tu n'es pas délaissé et ça te donne la force de continuer.
Garantir les droits fondamentaux des patients est un impératif pour réduire le nombre d'infectés au VIH, estimé à plus de 39 millions de personnes dans le monde en 2023, selon l'ONU-SIDA.
Les populations autochtones subissent les affres du changement climatique qui impactent sur leurs activités courantes, en l'occurrence la pharmacopée et le besoin vital de l'alimentation. C'est le sens à donner à la signature du mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires sociales et WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui a eu lieu ce jour à Yaoundé. Sur les enjeux de cet accord qui vise la promotion des droits des populations autochtones dans la conservation de la biodiversité, je vous propose d'écouter le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guenet, dans un extrait de discours sélectionné par Fatime Bintou Akoum.
Le mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires sociales et WWF Cameroun a pour vocation d'appuyer les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du plan national de développement des peuples autochtones, d'une part, et de servir de bonnes pratiques dans la conciliation, la complémentarité des politiques sociales et environnementales d'autre part. Le partenariat que nous voulons vise à faciliter l'accès des peuples autochtones aux services sociaux de base, en cohérence avec les missions de VVF et dont les résultats, les effets et l'impact seront perceptibles à court, moyen et à long terme. L'avancée majeure attendue de ce mémorandum d'entente revisé est qu'il devra mettre en lumière les activités réalisées au profit des deux communautés autochtones reconnues au Cameroun, à savoir les peuples de la forêt d'une part et les peuples Mbororo d'autre part, notamment à travers le Coastal Forest Program exécuté dans la région du Sud-Ouest.
En culture, Ngondo 2024, hommage au valeureux fils Sawa, le révérend Adolphe Lotina Samé, de vénérée mémoire, était au centre d'une table ronde à la salle des fêtes d'Akwa, sous le thème « Présentation de l'œuvre et la vision de l'homme ». Compte rendu, Franjam, CRTV Littoral.
Pour ses atouts mystiques et mythiques, le vénérable patriarche Lotina Samé reçoit pour la première fois l'exaltation de la ville de Douala et du peuple Sawa, révérend et Kumambela.
Pour la toute première fois au Cameroun, un maire de la ville a décidé d'honorer une personnalité forte, j'allais dire un héros de cette ville-là.
Premier parmi ses pairs dans le ministère pastoral, il aura su conjuguer religion et tradition grâce à sa vocation. Et Yumadiba.
Le Lotina Samé, c'était le frère aîné de mon grand-père. Vous devez donc comprendre, quand on parle de lui en bien, c'est mon âme qui est complètement exaltée.
Auteur de près d'un millier de cantiques en langue douala, regroupés dans le Essewa Bousangui et repris à volonté par le public de la salle des fêtes d'Akwa, Lotina Samé, Adolphe, a inspiré bien des générations. Révérend Guy Agalan.
Un peu plus d'engagement, d'enracinement dans notre foi, continuer cette œuvre sans plus avoir des clivages.
Décédé il y a 78 ans, l'illustre révérend est ainsi béatifié par cet hommage. Douala, Frank Jam, CRTV.
La cérémonie de dédicace du roman intitulé « Le bal des sept collines » a eu lieu cette fin d'après-midi à la Fondation Mouna ici à Yaoundé. Le dit ouvrage compte 148 pages, segmenté en plusieurs chapitres, paru en 2023 aux éditions L'Harmattan. Retrace l'histoire de Yaoundé, de ses origines à l'époque actuelle en explorant chaque quartier. C'est une touche d'ethnologue relative aux traditions et coutumes en voie de disparition. Je vous propose d'écouter Grégoire Guédi, auteur du roman Le bal des sept collines. C'est au micro de notre stagiaire Boris Lemamoum.
Avant la colonisation, il y avait une vie. Il y avait des gens qui vivaient, qui avaient des habitudes, qui avaient des manières, qui vivaient, qui avaient une organisation sociale. Et beaucoup que les jeunes savent que ce n'est pas le colon qui nous a créés. Quand on part de là, après, on peut traverser ces étapes, savoir qu'on avait des héros, comprendre que nous ne sommes pas un peuple de faiblards parce qu'on avait des héros, on a d'autres personnes. On peut s'identifier à Ongba Bisogo, on peut s'identifier à Onambelinku. C'est ça l'histoire. Et que la nouvelle génération comprenne, comme je disais tout à l'heure, que notre histoire ne commence pas avec la colonisation. C'est pas le colonisateur qui nous a créés. C'est bien avant, on existait. Et ce qui m'inspire justement, c'est l'idée justement d'aller vers l'âge, parce que je me suis posé la question, mais vraiment, qu'est-ce qu'on était avant les colons? Et on dit Rio dos Camaro et autres. Avant cela, comment on vivait? C'est ça que je veux savoir en fait. Et c'est pour ça que je suis allé si loin pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on vivait? On ne vivait pas, on vivait forcément.
Finale de la deuxième édition du concours interparoissial JIPA. L'événement aura lieu demain 30 novembre de 18h à 20h au Collège protestant de Ngaoundéré. Organisé par la jeunesse épanouie, ce concours regroupe les jeunes de 8 paroisses de l'église évangélique luthérienne du Cameroun basée dans la ville de Ngaoundéré. La finale prévue demain samedi sera présidée par l'artiste gospel Prince de Jésus. En sport, la deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya a officiellement été lancée ce vendredi à Bagofit, localité de la région de l'Est, par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui représentait personnellement la première dame, marraine de l'événement, Madame Chantal Biya. Le professeur Narcisse Mouélé Kombi engage les participants aux valeurs de fraternité et solidarité. C'était en présence du gouverneur de la région de l'Est, du promoteur de l'événement, le ministre Joseph Lé, et des dames du CERAC. Reportage Elvis Nguemison depuis Bagofit.
Invité d'honneur à cette deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya, la délégation centrafricaine était composée du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, Donin Wanzoumon, du ministre conseiller spécial du président Touadéra, Joël Kouemo, d'un débuté et de 6 coureurs. Brackley Sandy, président Fédération centrafricaine de triathlon.
L'œuvre sociale est l'une des activités primordiales de la première dame. Nous soutenons également cette œuvre en participant à cet événement.
Pour le ministre Joseph Lé, les clés de l'internationalisation de la course Chantal Biya sont à notre portée.
6 coureurs centrafricains et 2 coureurs français. L'opérateur de photo finish qui a décidé de venir voir et d'aller témoigner pour que le processus d'inscription de cette compétition dans le calendrier de l'UCI devienne effectif.
Au nom de la première dame, reine de l'événement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique salue la manifestation sportive qu'il qualifie de véritable plateforme de solidarité et de fraternité. Professeur Nassis Molekombi, ministre des Sports.
Un vecteur de partage et d'échange qui permet de créer des osmoses et des symbioses, c'est-à-dire des communions et des coalitions humaines autour d'un idéal de valeur partagée.
En présence des ministres Jean de Dieu Momo, Armand Jodom, le gouverneur Kougua Vongo va ouvrir la foire exposition du Vivre Ensemble et les dames du CERAC vont se rendre au CMA de Bagofit où des milliers de patients reçoivent des soins gratuits offerts par la première dame, Madame Chantal Biya. Bagofit, Elvis Guimaison, CIA TV.
Le championnat de football féminin Guinness Super League démarre demain samedi pour une 5e saison. 2 événements marquants ouvrent la série des rencontres. Le déplacement de FC Bolova, champion en titre à Bambili face à Itabong, et le Guinness Sico Amazon FAP Vision Foot au stade de Ngouaïkélé. La première journée prend fin dimanche avec au menu 4 matchs dont le duel Lekki Football Fille, Caïman Fille de Douala. Russell Oriani présente les affaires.
Faire main basse de nouveau sur le trophée des champions, c'est l'ambition qui habite les joueuses du FC Bolova au moment d'aborder ce 5e acte de Guinness Super League. Le club du Sud démarre sa campagne au stade de l'université de Bambili contre la formation locale des Itambong. FC Bolova veut lancer sa saison avec une victoire pour refroidir les ardeurs d'une meute de prétendants plus affamés que jamais. Dans cette liste figurent les Amazones des forces armées et police en opération rachat après un exercice manqué l'an dernier. Amazon FAP croise le fer avec les nouveaux de Vision Foot, le club vainqueur de la division 2 l'an dernier goûte cette saison aux délices de la Guinness Super League. Match à vivre au stade Ngouaïkélé. Cette même enceinte où va se produire l'Ogre, l'équipe football fille, revanchard après avoir échoué de justesse dans la course au titre la saison passée. Le vice-champion sortant reçoit Caïman de Douala. Le duel succède au choc Louvre Mine Prof Éclair de Sa sur la même pelouse. Les Louvres visent un meilleur départ face aux princesses de Sa, résultat qui les mettrait sur la voie d'une 6e consécration dans l'élite, la première depuis 2020. Awar Football, autre ancienne tête couronnée, fait face à Jaspor ce dimanche dès 15h au stade Omnisport annexe 1 de Yaoundé. Les filles d'Awa veulent effacer le souvenir d'une saison précédente difficile où le club avait frôlé de peu la relégation. Au même moment, Cyclone FC, nouvellement promu, effectue son baptême du feu contre Authentic Ladies au stade annexe de Bupanda.
Le 20h s'achève à Retenir Ballet Diplomatique ce vendredi au Palais de l'Unité. 8 chefs de mission accrédités au Cameroun ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Inauguration du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale demain, le grand jour. Et puis en sport, deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya. Le lancement a eu lieu ce vendredi à Bagofit, dans la région de l'Est. Au générique du 20h, Daniel Mamia, Christine Victoria. Et à Penda, Augustine Bassam, Serge Foisgué, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à l'écoute des programmes du Poste National de la CRTV. Bonsoir.